Alors, donc, Kapila Deva, il nous a donné cette philosophie Sankhya. Par la suite, il y a eu un autre, il l'imita. Il s'est aussi appelé Kapila, et il prétendit enseigner la même approche philosophique que la philosophie Sankhya, ce Kapila-là. Cependant, sa vision était celle d'un Nirisa, quelqu'un qui n'accepte aucun dieu. De la même manière que tous les scientifiques, tous les philosophes de cet âge, leur seule tendance est de savoir comment effacer Dieu de tout, plus de Dieu. Que Dieu est un sujet pour les personnes primitives. Parler de Dieu est une idée primitive. Maintenant que nous sommes avancés en termes de science, pourquoi devrions-nous parler de Dieu? Telle est la tendance de nos jours, la tendance. Mais comment pouvez-vous résoudre toutes ces questions sans accepter Dieu, sans accepter une source suprême de tout? Comment pouvez-vous les résoudre? Ce n'est pas possible. Vous êtes simplement un produit de cette manifestation cosmique. Votre cerveau, votre petit cerveau, est composé de muscles et de veines. C'est le produit de ce monde matériel. Vous ne pouvez même pas produire un cerveau. Réfléchissez-y. Pouvez-vous produire un cerveau? Vous faites l'éloge d'un grand scientifique comme le professeur Einstein. Très bien. Pourquoi le professeur Einstein ne crée-t-il pas un cerveau comme lui? Pourquoi? Quel est le problème? Il peut créer un cerveau comme lui et le garder dans une vitrine pour qu'il n'y ait pas de pénurie d'hommes scientifiques. Mais pourquoi doit-il mourir? Pourquoi doit-il mourir? Qui le force à mourir? Pourquoi doit-il être malade? Pourquoi doit-il vieillir? Qui contrôle ces choses-là? Il est donc impératif d'accepter le contrôleur suprême. C'est un must. Vous devez. Sans cela, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous devez l'accepter. Nous pouvons apprécier le cerveau d'un scientifique, mais comment, qui est celui qui a créé ce cerveau? Nous voulons plutôt découvrir cette personne qui a créé, pas le cerveau comme tel. Un enfant, par contre, a sa façon d'apprécier une voiture, se demandant comment elle fonctionne. Mais son père apprécie le conducteur, la façon dont le conducteur manie la voiture. Ainsi donc, nous ne devrions pas être surpris par la création ou le fonctionnement de la nature matérielle. Nous devrions apprécier qui la dirige, qui est à l'origine de cette nature matérielle. C'est ce que nous indique la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 10. Maya Dyakshena Prakti Suyate Sa Charak Charam etunanem nanena kunteya jaga viparivartate. Krishna dit Maya Dyakshena sous ma direction. Il dit que la prakti, cette nature matérielle, fonctionne ainsi. Maya Dyakshena. Il suffit de voir comment il agit, comment la prakti.
Le petit point avec en dessous du A, c'est un I qui est sous-entendu.
Oui, c'est vrai. Prakriti fonctionne. Tout comme ce mois-ci dans votre pays, on l'appelle automne, le mois de septembre. Après quelques jours, tant de feuilles vont tomber de tous les arbres. De nouveau en avril, aussitôt, les feuilles vont repousser sur des millions d'arbres. Si vous deviez fabriquer ces feuilles l'une après l'autre et les installer dans un arbre une à la fois, vous verriez à quel point ce serait très, très difficile. Mais par la loi de la nature, par l'énergie de Dieu, cela se fait d'un coup. En quelques jours, des millions d'arbres retrouvent leurs feuilles et des millions d'arbres les perdent. Et des millions de fruits en sont récoltés. De la même manière, toute cette manifestation cosmique a vu le jour par la simple volonté de Dieu, non pas que... Tout comme une fois la saison venue, il y a des centaines, des milliers et des millions de fruits. Vous n'avez pas à créer chaque fruit. Lorsque la saison est venue, les fruits sont tous prêts, aussitôt. De même, lorsque Dieu dit que la création soit, des millions de planètes sont immédiatement créées. C'est ça, Dieu. Pas ce Dieu bon marché prétendant « Je suis Dieu ». Dans votre pays, ils viennent et vous êtes fourvoyés. Nous n'acceptons pas ce genre de Dieu bon marché. Nous voulons ce Dieu qui... par sa sainte volonté, sont créés des millions d'univers.
Passe par-dessus ce million.
Ouais, ça va être plus facile. Donc, nous ne sommes pas à la recherche d'un dieu de pacotille. Le vrai dieu, c'est Krishna. C'est ça. Krishna, Govindam, Adi, Purusham, Tam, Haham, Bhajami. Nous ne sommes donc pas si fous que ça. Pourquoi devrions-nous faire des recherches? Tout est là. Nous sommes donc confiants. Nous savons ce qui va se passer et ce qui se passera par la suite. Ce n'est pas de l'astrologie. C'est tout est là dans la connaissance védique. Veda signifie connaissance, connaissance complète. Profitez-en et soyez instruits. Merci.
Oui, merci beaucoup. Omigana Timirandasya Ginanjana Sadakaya Chaksurun Militam Yina Tasmai Shivrave Namah. Shri Prabhupada Ki Jai.
Jai.
Alors, un point important pour un dévot de Krishna, et c'est, disons, ce qui fait un dévot, c'est le fait que le dévot est intéressé par le contrôleur suprême, qui est Krishna. Et plus le dévot sert Krishna avec dévotion, plus le dévot, disons, par la grâce de Krishna et par réciprocation de Krishna avec le dévot, plus le dévot peut percevoir ou voir la présence de Krishna dans n'importe quoi, dans tout. C'est ça qui est intéressant pour le dévot. Alors donc, le dévot n'est pas intéressé par l'énergie de Krishna. Il est intéressé par l'énergie de Krishna, oui, pour servir Krishna, mais il a un intérêt supérieur, c'est-à-dire la source énergétique de tout ce qui existe, Krishna. Ça, c'est la position d'un dévot. Alors, Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Krishna dit, je suis la source des mondes matériels et spirituels. Et ceux qui savent cela parfaitement, les dévots, m'adorent avec grande détermination. Ça, c'est dans la Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 8, si je ne m'abuse. Alors, ça, c'est ça un dévot. Alors, pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est une bonne question. Si je vous pose cette question, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que vous répondriez?
Parce que c'est vrai.
Oui, mais pourquoi c'est vrai, là? C'est la même question. Pourquoi le dévot est intéressé à la source énergétique qui est Krishna, comme Krishna, comme le Bhagavatam dit, ou le Vedanta Sutra dit, Janma Dhyasya Yataha, la vérité absolue, c'est de qui tout émane. Alors le dévot, lui, c'est l'objet de sa méditation, c'est Krishna. Pour le matérialiste, tout ce qu'il voit autour de lui, c'est tout, mais sauf Krishna. Alors, qu'est-ce qui fait la différence?
Parce que Krishna, le dévot voit Krishna en tout, en toute chose, dans les trois formes de sa présence dans l'univers. Et donc, en fait, sachant que Krishna est à l'origine de tout, le dévot se rattache à la source, c'est-à-dire au Seigneur suprême lui-même.
D'accord, mais le dévot, pour justement se rattacher au Seigneur suprême lui-même, il doit avoir une motivation, il doit avoir une raison.
L'amour pour Krishna?
Exactement.
Sa motivation. J'avais pas bien saisi le sens, en fait, mais voilà, c'est l'amour, c'est notre amour pour le Seigneur, pour Krishna, qui nous fait nous rapprocher de lui.
C'est ça. Alors, l'amour pour Krishna fait que on va pouvoir voir Krishna. Et comme c'est dit dans la Brahma Samhita, il y a un verset qui dit Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, etc., etc. Ce verset dit, pour les dévots dont le cœur est loin de l'amour de Dieu, ils voient Dieu tout le temps et partout. Et ils voient Dieu dans leur cœur aussi, dans sa forme trois fois courbée, sa forme de Shyam Sundar. Alors, c'est le service de dévotion offert à Krishna qui fait développer l'amour pour Krishna. Alors, s'il n'y avait pas de service à rendre à Krishna, il n'y aurait pas de vision non plus de Krishna. Alors, tout ça, ça va ensemble. Le service offert à Krishna et l'amour de Krishna, comme si quelqu'un dit « j'aime Krishna », ben oui. Mais qu'est-ce que tu fais pour Krishna? Finalement, tout compte fait, dans ma vie de tous les jours, disons que je fais pas grand-chose. Mettons peut-être une petite demi-heure, puis encore là, il n'y a même pas de demi-heure une fois par semaine. Je vais aller à la messe. Puis même à ça, la concentration peut-être laisse à désirer, etc., etc. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une vision dévotionnelle lui permettant de penser à Krishna, de vouloir servir Krishna. C'est pas donné à tout le monde. Alors, à qui ça va être donné, cette vision-là? À un dévot, oui. Mais comment est-ce que le dévot, disons, cultive cette vision?
Par le service à son maître spirituel, par l'écoute en fait, c'est par son maître spirituel qu'il reçoit.
Oui, d'accord. Mais disons que si je sais, je veux développer l'amour pour Krishna, et si je sais aussi que il y a mille et une façons à tout moment d'oublier Krishna, qu'est-ce que je vais faire? Alors, dans un premier temps, le désir ou la compréhension philosophique est là. Puis dans un autre volet, il y a l'oubli de Krishna qui est tellement facile d'être distrait. Alors, qu'est-ce que le dévot doit faire?
S'associer avec d'autres dévots?
Ça, c'est une chose. Mais avant ça, parce que le dévot n'est pas 24 heures par jour avec d'autres dévots.
Chanter le mantra.
Écouter et chanter les sanons.
Exactement. Alors, on s'associe avec Krishna en chantant les saints noms de Krishna. Alors, c'est la façon par excellence pour un dévot de cultiver son amour, sa relation avec Krishna. C'est comme c'est dit par Rupa Goswami, il y a juste un seul principe dans la conscience de Krishna. C'est-à-dire toujours penser à Krishna, jamais oublier Krishna. Et toujours penser à Krishna, ça se fait par le chant du Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est la façon par excellence. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ok.
Excusez-moi, mais c'est aussi lire sur Krishna aussi.
Oui. Certainement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais disons que on va pas lire 24 heures par jour. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations liées au corps matériel. Par exemple, faut manger, faut boire, faut se déplacer d'un endroit à l'autre, faut aller faire ses commissions. Il y a plein de choses qui sont liées au corps matériel. Ce qui fait qu'on peut pas juste s'asseoir et lire 24 heures par jour. C'est impossible.
C'est
alors,
vrai. Mais ça permet de ne pas l'oublier.
Oui?
Ça permet de ne pas l'oublier.
Exactement.
Ça aide à recentrer.
Oui, c'est ça. Alors, le chant des saints noms, c'est la méthode par excellence pour ne pas oublier Krishna. De toujours être en contact avec Krishna. Parce que c'est une prière aussi. Comme Prabhupada, il faisait des classes, puis dans les classes, et dans une classe que j'ai écoutée dernièrement, Prabhupada disait, il faisait, c'était une lecture en anglais, mais c'est une classe d'initiation. Alors, Prabhupada disait il parlait aux dévots en général, puis il disait, son point c'était de ne pas chanter sans savoir qu'est-ce que l'on fait. Il faut chanter correctement parce que le chant des saints noms, c'est une prière à Krishna. On demande à Krishna, on demande à son énergie interne de nous protéger, de nous engager à leur service. Alors, c'est pas un service ordinaire, ce n'est pas une prière ordinaire. C'est le chant du Mahamantra comme tel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Moi, je chante un mantra Hare Krishna, mais je fais un petit peu de lecture, mais je ne le dis pas sur mon japa. Je me le dis mental.
OK.
Je sais pas si je comprends ce que je veux dire.
Oui, tu chantes à l'intérieur de toi-même.
Oui, c'est ça.
C'est bon, c'est pas valable, mais c'est recommandé par les maîtres spirituels d'écouter le son du Saint-Nom.
Oui.
Okay? Parfait. Alors, c'est faut y aller avec la méthode recommandée. Alors, c'est évident que, par exemple, lorsqu'on mange, ben, on va pas chanter en mangeant, mais on peut chanter à l'intérieur, dans son fort intérieur, en prononçant le mantra. Ou parfois, on est en société et on ne peut pas chanter. On peut chanter dans son fort intérieur, mentalement parlant. Mais autant que possible, écoutez le Saint-Nom, écoutez la vibration, le son transcendantal qui n'est pas différent de Krishna lui-même. OK? Alors, on va continuer.
Dis le mantra avec Prabhupada.
Pardon?
Chantez le mantra avec Prabhupada en CD.
C'est parfait, ça. C'est parfait. Ouais. Parfait. Est-ce que les dévots font au temple tous les matins? Après l'adoration de Tulasi, ils mettent le japa de Prabhupada.
Oui. Sur YouTube, on trouve les 16 tours.
Et puis les dévots chantent. Il y a Prabhupada dans le background. Les dévots chantent leur tour.
Oui.
OK. Alors, on va continuer. On est à la... OK, page 32, ligne 21. C'est ça ici. Lynn, voudrais-tu lire?
Oui. L'analogie de l'enfant et de son père qui regarde une voiture est sûrement pertinente. L'enfant se demande comment l'auto fonctionne et le père apprécie plutôt comment le conducteur manie la voiture. On peut conclure que la recherche scientifique ne vise qu'à comprendre le fonctionnement mécanique de tout ce qui existe dans l'univers relève d'un concept puéril, immature de la réalité des choses matérielles. En abondant dans la même veine, on peut conclure que l'entendement de la nature en rapport avec son créateur qui la dirige démontre une connaissance mature de la réalité des choses. Comment cela? Sur la base de l'acceptation de l'intelligence d'un créateur puissant aux énergies inconcevables agissant sous sa volonté, entendement que les scientifiques ont énormément de difficultés à accepter car leur perception est fondée sur l'inexistence d'un dieu quelconque en charge. Alors, qui veut servir de dindon de la farce? Entre-temps, la farce continue. Naissance, maladie, vieillesse et mort. Personne ne gagne dans ce cycle.
on ne perd que sa vie en bout de ligne, quitte à recommencer sans cesse à essayer les réactions bonnes ou mauvaises d'actes passés. Qui ne comprend pas cela, comment peut-on prétendre être utile pour autrui ou pour soi-même? Le vrai défi dans la vie, c'est d'avoir assez de courage d'agir en fonction d'une éducation spirituelle suffisamment forte pour finalement arriver au bout du compte à être libéré du cycle de la naissance et la mort. Comment? Le Srimad Bhagavatam nous éclaire sur ce sujet. Le Seigneur Rishabhadeva instruit ainsi ses fils dans le cinquième chant, cinquième chapitre du Srimad Bhagavatam. Nous vous en présentons le résumé. Ce chapitre décrit le Bhagavata Dharma où les principes spirituels du service de dévotion, ces principes consensueux qu'observent les hommes voulant obtenir la libération et être soulagés des souffrances matérielles. On y trouve décrit qu'un être humain ne doit pas peiner comme un chien ou un porc à la seule fin de satisfaire ses sens. La vie humaine doit tout particulièrement nous permettre de renouer nos liens avec le Seigneur suprême et toutes sortes de pénitences et d'austérité doivent être acceptées pour parvenir à cette fin. La cesse permet de purifier le cœur de toute souillure matérielle, ce qui a pour effet de nous établir au niveau spirituel. Mais pour atteindre ce niveau de perfection, il est essentiel de chercher refuge auprès d'un bhakta et de le servir. Alors s'ouvriront pour nous les portes de la libération. Les êtres attachés aux femmes et aux plaisirs des sens s'embourbent de plus en plus dans une conscience matérielle. Ils doivent alors endurer la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Quant à ceux qui se consacrent au bien-être de tous et qui ne sont pas attachés à leurs enfants et à leur famille, on les nomme Mahatma. Quiconque demeure voué à la satisfaction de ses sens, agissant de façon tantôt pieuse, tantôt impie, ne peut saisir la raison d'être de l'âme. Aussi faut-il trouver un bhakta très avancé et l'accepter comme maître spirituel. À son contact, on pourra comprendre le but de l'existence. En suivant les instructions d'un tel maître spirituel, l'homme peut avoir accès au service de dévotion offert au Seigneur, se détacher des choses matérielles et tolérer les souffrances et les malheurs de ce monde. Il peut alors voir tous les êtres d'un œil égal et développer un intense désir d'approfondir les questions spirituelles. En s'efforçant avec persistance de satisfaire Krishna, il se détache de la femme, des enfants et du foyer. Il ne veut plus perdre de temps et c'est ainsi qu'il devient conscient de son identité spirituelle. Celui qui possède un haut niveau de savoir spirituel n'entraîne personne dans l'action matérielle. Aussi, quiconque ne peut délivrer une autre personne en l'instruisant sur la science du service de dévotion devrait s'abstenir de devenir un maître spirituel, un père, une mère, un déva ou un époux. En instruisant ses 100 fils, Sri Rishabhadeva leur conseilla de reconnaître pour guide et maître leur frère aîné Bharata et de le servir en tant que tel. De tous les êtres vivants, les brahmanas sont les plus élevés, mais au-dessus des brahmanas se situent les Vaishnavas. Servir un Vaishnava revient à servir Dieu, la personne suprême. Sukadev Goswami dépeint donc la personnalité de Bharata Maharaj ainsi que le sacrifice accompli par Rishabhadeva pour l'édification de tous. Sur les points les plus importants, tous les points les plus importants sont là.
Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui, sur le mot dit, les Vaishnavas sont plus hauts que les Brahmanas.
Oui.
Normalement, c'est le brahmana qui devient celui qui enseigne les Vaishnavas sur la spiritualité de Krishna. Maintenant, le rôle c'est rendu que les Vaishnavas, à cause de leur service ou quelque chose, sont plus élevés.
OK. Bon, ça c'est un bon point. Bon, premièrement, les brahmanas sont pas tout seuls dans la société. C'est une division sociale. Alors, dans la société, il y a les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas, les sudras, qui sont des produits des trois gunas de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance. Les brahmanas sont censés à être sous l'influence de la vertu. Et les brahmanas forment la tête de la société ou du corps social. C'est eux qui sont responsables de distribuer la connaissance, de faire les cérémonies religieuses, d'être des exemples personnels de maîtrise des sens, de simplicité, de connaissance, de savoir réaliser. Ce sont les prêtres, les modèles pour la société. Mais il y a plus élevé que les brahmanas, ceux, les âmes spirituelles pures, qui sont libérées de l'influence des trois gunas. Ça, ce sont les Vaishnavas. Pourquoi? Parce que les Vaishnavas sont des êtres, des âmes spirituelles qui ont compris leur relation éternelle, leur relation spirituelle avec Dieu, avec Krishna. Et ils s'engagent dans ce service-là. Alors, un Vaishnava, par exemple, peut jouer le rôle de Brahmana et, s'il le faut, prendre le rôle d'un Kshatriya. Il y a un dévot dans le Srimad Bhagavatam qui a pris ces deux rôles-là. Je me souviens pas, le nom ne me vient pas tout de suite. Je pense que c'était Vishwamitra Muni qui a joué ces deux rôles-là. Alors, un Vaishnava, pour le service de Krishna, peut accepter tel ou tel rôle. Alors, comme Prabhupada, disons, en ce qui concerne ISKCON, il disait, par exemple, mais c'est sûr que ça va se faire. Par exemple, la ville de Mayapur. Et là, Prabhupada disait, on est obligé de se diviser en quatre. Parce que la ville de Mayapur est supposée d'avoir quatre quartiers, si vous voulez. Une pour les brahmanas, une pour les kshatriyas, une pour les vaishyas et une pour les sudras. C'est supposé d'être un modèle pour le monde entier. Alors, on peut dire on est des brahmanas vaishnavas, mais pour l'amour du service, il y aura telle ou telle personne qui joueront tel ou tel rôle. Mais évidemment, d'un point de vue matériel, c'est très difficile d'aller à côté de sa propre nature. Parce que chacun a une propre nature. Dans la Bhagavad Gita, même Krishna dit ça à Arjuna. Il dit, à quoi ça sert de réprimer sa nature? Tout le monde doit agir d'après sa propre nature. Alors, l'exemple, c'est Arjuna, qui est un kshatriya. Et Arjuna n'est pas Arjuna, lui, voulait, par exemple, prendre le rôle d'un méditant pour éviter la bataille. Il voulait être un méditateur, ce qui serait plus la fonction d'un yogi ou d'un brahmana. Le brahmana, c'est pas celui qui va lever les armes. Mais un kshatriya, oui. C'est son rôle. Alors, Arjuna est un kshatriya et il ne peut pas, en fait, éviter le défi qui est devant lui et de combattre pour une juste cause sur le champ de bataille de Kurukshetra. Alors, il doit combattre. Alors, le Vaishnava va agir pour Krishna et selon sa nature aussi. C'est un Vaishnava. Est-ce que ça répond à la question? Alors, en tant que dévot, on devrait savoir ou avoir une bonne idée dans quelle division on se situe. Est-ce que par nature on est un brahmana ou on est autre chose? Donc, quand on regarde au temple, là, si on regarde le temple d'ISKCON, ou n'importe quel ISKCON, dans le monde. Si quelqu'un regarde de près, étudie les dévots, il va voir, ah, il y a des dévots qui naturellement sont plus brahmaniques et d'autres moins. Et c'est pas tout le monde qui est un brahmana. Le problème avec ce genre de vision-là, c'est de commettre l'erreur de devenir très, très orgueilleux. Et comme Prabhupada disait, être un brahmana, la classe sociale auquel on appartient, c'est par qualification. Ce n'est pas par naissance. Ça, c'est un des gros problèmes avec le système social indien. C'est que les brahmins pensent, ah, je suis né dans une famille de brahmins, donc je suis un brahmin. Quand en réalité, il est de quatrième classe. Mais il se prétend brahmin. Alors, dans la Bhagavad Gita, Krishna décrit les caractéristiques de chacune de ces divisions-là. Comment agit un brahmin? Quelles sont ses qualifications? Comment agit un kshatriya? Quelles sont ses qualifications? Quel est le devoir d'un vaishya? Et quel est le devoir d'un shudra? Tout ça, c'est décrit dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 18 en particulier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste une dernière. Une personne peut avoir les quatre classes dans lui aussi. Il peut être un peu kshatriya, il peut être brahmana, il peut être shudra, il peut être vaishnav. Ou c'est vraiment structuré que tu peux pas être tout en même temps. Comme des fois, tu peux être bon comme tu peux être méchant.
Je serais d'avis que c'est une catégorie. Alors, parce que, par exemple, complètement à l'opposé du brahmana, c'est le shudra. Pour le soudra, lui, la satisfaction de ses sens, là, c'est, comme on dit donc c'est A1. C'est super. Et pour le brahmana, c'est tout à fait le contraire. Pour le brahmana, c'est samo dhamma tapak socham. Samo dhamma. Dhamma veut dire la maîtrise des sens. Alors, pour lui, ses sens sont maîtrisés par l'engagement dans le service de dévotion. Alors, comme par exemple, si ça fait plaisir à un shudra de boire, ben, brahmana, c'est la dernière chose qu'il devrait faire. Ça va pas, l'un va pas avec l'autre, là. Alors, dans l'âge de Kali, Kalo Shudra Sambhava, c'est que tout le monde est né shudra. Il y a pas vraiment les brahmins qualifiés, puis les kshatriyas qualifiés, puis les vaishyas qualifiés. C'est d'une extrême pénurie à 99% dans l'âge de Kali. Alors, un autre exemple, Prabhupada décrit les brahmanas des temps védiques. Pour eux autres, ils faisaient des sacrifices animaux, comme par exemple sacrifier une vache pour tester la qualité de l'énonciation, la prononciation des mantras. Alors, si les mantras étaient bien prononcés, la vache était sacrifiée, mais ressortait avec un corps, un nouveau corps. Ça, c'était pour tester les mantras védiques de sacrifice. Alors, les brahmins étaient qualifiés. Mais Prabhupada dit, dans l'âge de Kali, ce genre de brahmin-là n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors, dans l'âge de Kali, ce qui est recommandé, c'est l'instruction du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, à savoir chanter les saints noms, chanter les saints noms, chanter les saints noms. C'est la voie par excellence pour se réaliser spirituellement parlant. C'est une prière. On demande à Krishna de nous protéger de l'influence de l'énergie matérielle et de nous engager dans l'énergie spirituelle, c'est-à-dire le service de dévotion. Alors, c'est une prière constante. Il n'y a jamais de fin à cette prière-là. Tant qu'on a la vie, on doit chanter. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? OK. Alors, on va continuer. Alors, Virginie, vous devez-tu lire le point 1.5? Page 33, ligne 34.
Oui, oui. 1.5.
Alors, comme la deuxième partie du cours précédent a été malheureusement non enregistrée, alors je me permets de refaire ce petit bout par moi-même et commenter au fur et à mesure. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai. Alors, le point 1.5. Personne n'échappe à ces lois immuables et aucun être, qu'il soit deva, homme, bête ou plante, ne peut prolonger indéfiniment son existence en ce monde. Bienvenue dans le club. Notre club en est un fait entièrement de sobriété. La sobriété sous-entend être affranchi de toute forme d'illusion, suscitée préalablement par une forme d'intoxication. Mais de quelle sobriété est-il question? Chez qui peut-on la trouver? Il s'agit de la sobriété que possèdent les véritables sages érudits, reconnus pour leurs qualifications en matière de pensée, de comportement, d'action, axée sur la réalisation spirituelle. Et qu'est-ce que la réalisation spirituelle au juste? C'est la capacité d'être pleinement conscient en toutes circonstances de sa véritable identité d'âme spirituelle, en avoir pleine réalisation pratique. C'est aussi simple que cela. Se savoir une âme et en être conscient en toutes circonstances. Ce n'est pas mince affaire. Dans le monde de l'illusion, pareille capacité est impossible pratiquement parlant. Seule une âme qui s'est abandonnée à Dieu peut en être capable. À cette fin, la protection divine est absolument nécessaire. Comment, à tout moment, à chaque pensée, nous venant à l'esprit, demeurer conscient de notre âme et de Dieu, Krishna? La Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 13, nous répond. Mais les Mahatmas, les grandes âmes, qui jamais ne s'abusent, ô fils de Prita, sont sous la protection de la nature divine. Sachant que je suis Dieu, la personne suprême, originelle et inexhaustible, ils s'absorbent pleinement dans le service de dévotion. Teneur et portée. Ce verset donne une description claire du Mahatma. La première caractéristique en est qu'il vit toujours sous l'égide de la nature divine. La nature matérielle ne le domine pas. Comment cela est-il possible? La réponse a été donnée dans le septième chapitre. Celui qui s'abandonne à Krishna s'affranchit aussitôt du joug de la nature matérielle. Une fois libéré de cette suggestion, l'être distinct, parce qu'il est l'énergie marginale du Seigneur, vit désormais sous la tutelle de la nature spirituelle, qu'on appelle également Devi Prakriti, ou nature divine. Celui qui s'élève ainsi, en s'abandonnant à Dieu, la personne suprême, atteint le stade de Mahatma, il devient une grande âme. Rien ne détourne son attention de Krishna, car il sait en toute certitude qu'il est la personne suprême originelle, la cause de toutes les causes. Un Mahatma se forme au contact d'autres Mahatmas, purs dévots de Krishna. Ceux-ci, du reste, ne sont pas attirés par les autres formes du Seigneur, telles la forme à quatre bras de Mahavishnu, et certainement moins encore par la forme d'un Deva, ou d'un humain. Seule la forme à deux bras de Krishna les attire. Ils ne méditent que sur lui. Ils servent avec une constance sans défaut dans la conscience de Krishna. Tout être devrait devenir un Mahatma. Comment? Au contact d'un autre Mahatma de qui il apprendra tout du service de dévotion. En retour, par pure reconnaissance, il s'affairera humblement à le servir. C'est très simple et efficace. Maintenant, bienvenue dans le sous-club de la sobriété, le club de l'humilité. Parfois, l'humilité peut être définie comme la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Tel est un signe de savoir réalisé en ce qui a trait au bagage spirituel d'un dévot qui se doit. La vie matérielle a parfois ses bons côtés. Elle force une âme conditionnée à prendre conscience de sa véritable position d'âme spirituelle à force de se faire taper dessus de tous bords, tous côtés. La leçon est longue et ardue, car l'âme conditionnée a la tête aussi dure que les coups qu'elle encaisse. Un vilain cercle vicieux en perspective. Si quelqu'un est vraiment chanceux dans sa tête et son cœur, il se verra humilié et il acceptera avec joie qu'il en soit ainsi. Une fois l'humiliation reconnue, son cœur en sera d'autant plus soulagé de toute forme de sordide prestige illusoire. Fini les folies du faux ego. Un soulagement fort souhaitable en fait. Bienvenue encore dans le club de l'humilité à toute fin pratique. C'est ici que s'est terminé le cours du 9 mars 2024. Alors, commentaire. Omegana Timrandasya Viranjana Sadakaya Chaksurun Mimitam Nina Tasmai Shigurave Namaha. Alors, au tout début, on parle bienvenue dans le club. Notre club en est un fait entièrement, est en fait. Voyons. En est un fait entièrement de sobriété. La sobriété sous-entend être affranchi de toute forme d'illusion suscitée préalablement par une forme d'intoxication. Alors, on en a déjà parlé dans un cours précédent. Prabhupada dit que tout le monde est intoxiqué par le concept matériel de l'existence. Tout le monde s'identifie à son corps et ceci depuis des temps immémoriaux. Alors, c'est difficile de départager l'identification entre le corps et l'âme. Ça prend une grâce spéciale, la grâce de Krishna, la grâce d'un pur dévot, la grâce de Guru et Krishna, la force d'écouter un maître spirituel authentique. Le message finit par porter fruit et on commence à comprendre de plus en plus clairement que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme spirituelle. Et effectivement, si nous voulons mettre toutes les chances de notre côté pour justement parvenir à cette réalisation que nous sommes une âme et non un corps matériel, il faut couper court dans l'addiction ou l'intoxication à la gratification des sens, qui est une tendance que nous avons depuis des temps immémoriaux aussi. Alors, qui dit corps matériel dit aussi l'avoir cherché par la voie de la tentative de se satisfaire par la jouissance des sens, la gratification des sens. Alors, c'est tout. Alors, un est comme le feu, et l'autre est comme l'eau, dans le sens que l'eau, ça veut dire ne pas faire le... Attendez une minute. L'eau et le feu, les deux ne vont pas ensemble. Et comment éteindre le feu de la jouissance matérielle? C'est en l'arrosant avec le nectar des paroles de maître spirituel et de Krishna. Disons, ça, c'est une façon de voir. D'un autre côté, on dit que la forme humaine de vie comporte une étincelle de vie spirituelle potentielle. Chaque être humain a ça en lui. Et Prabhupada dit que dans la forme humaine de vie, il faut arriver à souffler cette étincelle pour la faire jaillir de plus en plus et finalement arriver à un beau feu bien éclatant. Alors, la forme humaine de vie veut dire aller dans le sens contraire de l'énergie matérielle qui, elle, nous pousse à s'identifier au corps et à jouir des sens. Et aller dans le sens contraire, ça veut dire savoir, connaître que notre corps, notre âme, notre mental, tout ce que nous puissions avoir appartient à Dieu, à Krishna, et l'utiliser au service de Krishna. Ce qui veut dire que la conscience de Krishna veut dire utiliser ses sens au service du maître et propriétaire des sens qu'on appelle Rishikesha, c'est-à-dire Krishna. Et ça, cet acte d'utilisation au service de Krishna, c'est ce qu'on appelle le service de dévotion. Alors, et après, une fois que quelqu'un a compris de s'engager dans le service de dévotion, tous les espoirs sont permis, dans le sens que s'ouvre pour lui la voie grande ouverte pour connaître Dieu, connaître Krishna, tout de lui, c'est-à-dire sa forme, ses formes, parce qu'il en a plusieurs, mais il a aussi sa forme originelle, la forme de Krishna, son entourage, ses qualités, ses dévots, le monde spirituel. Et ceci est possible lorsque un dévot, en fait, comprend par le service de dévotion que finalement, la meilleure chose à faire dans la vie, c'est de s'abandonner complètement à Krishna, dépendre de lui en toutes circonstances. Et Krishna veille sur un tel dévot qui s'abandonne à lui, le protège de l'influence de l'énergie matérielle, de telle façon que le dévot ne va pas retomber ou, par la grâce de Krishna, ne va pas être laissé retomber sous l'influence de l'énergie matérielle. Ça, c'est tout ça, c'est par la grâce de Krishna. Alors, quelqu'un qui s'engage complètement dans le service de dévotion, cette personne-là est digne d'être considérée un mahatma, une grande âme. Alors, que font les mahatmas? Et premièrement, le verset 10 et Bhagavad Gita 9, 13. Mais les mahatmas, les grandes âmes qui jamais ne s'abusent, ça veut dire qu'ils ne tombent jamais dans les pièges d'une énergie matérielle qui c'est fini pour eux autres, la gratification des sens pour soi-même. Aux fils de Prita, sont sous la protection de la nature divine. Pour eux, ils ont pris refuge en Krishna, ils se sont abandonnés à Krishna. Et il fonctionne en fonction de l'énergie spirituelle, l'énergie. Et sous l'influence de cette énergie, il y a juste une chose à faire, c'est de servir Krishna, penser à Krishna, être conscient de Krishna. Sachant que je suis Dieu, la personne suprême, originelle et inexhaustible, il s'absorbe pleinement dans le service de dévotion. Alors, voilà la description des mahatmas tels que la Bhagavad Gita nous l'énonce au chapitre 9, verset 13. Alors, je vais m'arrêter ici. Alors, merci de venir au cours. Et puis, on se revoit la prochaine fois, le 23 mars prochain. Alors, merci beaucoup. Hare Krishna. Bye.